donc des tas de lumière, voilà, ça va être coloré, etc. Un rythme rapide, hein, notre cœur il va battre plus vite. Un rythme rapide, voilà, une stimulation auditive très forte. Ça aussi, si on entend une musique, ben, tout de suite ça a la capacité de créer une émotion, donc ça s'ajoute à ce que l'image porte déjà, etc. Donc hyper stimulation auditive, rythmique, lumineuse pour créer cette émotion. Ensuite, à votre avis, quelles sont les autres images qui va mettre en avant? Oui, des couleurs aussi. Donc on a dit, alors je vais faire un petit détail, hein. Donc maximiser le temps d'écran, comment ils font? Vos sujets d'intérêt, vos manières de voir et de penser. Ça va avoir plus de chances de vous maintenir devant l'écran. C'est ce qu'on disait avec la princesse, c'est l'effet bulle. Mais du coup, ça nous enferme dans ce que voilà, nos sujets à nous. Et ça ne permet pas d'en sortir. Au contraire, ça nous affermit, ça nous confirme dans ce qu'on pense. C'est pas forcément un service à nous rendre d'ailleurs, quand on y réfléchit. Mais en tout cas, ça pose question. Voilà, donc c'est l'effet bulle, très connu. Alors là, bien sûr, vous avez cliqué qu'une fois sur like, mais quand vous y passez 2 heures, etc., le gamin finit par vraiment bien vous connaître. Un contenu récréatif, consensuel, universel, sans aspérité, voilà, les trucs universels, images, un truc un peu qui fait rire, qui est drôle, gentil, mignon, tout ce qu'on veut. Notamment beaucoup avec les animaux, un peu curieux, c'est ça, des chats, des araignées, toutes sortes de choses. Un lézard qui prend son pas. Un contenu ou un ton polémique. Donc là, c'est les fameux chocs, hein. Un peu de la violence ou un sujet ah ouais, qui est polémique tout de suite, ça nous fait monter, ça nous intéresse. Ah ouais, c'est vrai, pourquoi? Comment? Qui a raison? Qui a tort? Accentuation du caractère événementiel, exceptionnel de l'info. Donc il faut qu'on ait l'impression que c'est un scoop, que même si c'est un truc un peu banal qui est arrivé, il faut que ça donne l'impression d'être absolument unique comme événement. Voilà, donc ça peut être une recette extraordinaire. Alors on peut faire ça avec tout, c'est ça qui est extraordinaire. On peut avoir l'impression d'avoir la recette du siècle, alors que c'est pour fabriquer soi-même
Si c'est une
de
bonne
la
soeur qui donne
mayonnaise.
la recette, c'est encore mieux.
Comment?
Si c'est une soeur qui donne la recette, c'est
Ah
encore
oui,
mieux.
c'est ça. Mais comme on le verra après, en fait, ces recettes, souvent, on les fait jamais. On les regarde, mais on les fait jamais. Mais ça, on le verra après. Donc l'hyperstimulation auditive, ça on l'a dit, rythmique, lumineuse, pour créer une émotion. Susciter les pulsions les plus primaires, y compris sexuelles, notamment sexuelles qui est beaucoup plus forte, s'adresser aux instincts les plus bas, voire pervers. Séduire, flatter l'ego, dire qu'on est bien, etc., montrer, etc. Donc ça, oui, ça marche très bien. Créer un lien de complicité, jouer le jeu de l'amitié. En plus, quand on connaît la personne, c'est plus facile. Et simplifier le message. C'est toujours. De toute façon, il faut qu'il soit court, un message court aussi. Très court, donc plus on avance, plus les messages sont courts, et plus la capacité de communication est atrophiée, quoi. Donc on dit très peu de choses et c'est souvent simplificateur. Voilà, en gros. Et donc au final, tout ça, c'est des recettes qu'on voit déjà quasiment dans les messages publicitaires, en réalité. On peut quasiment copier, à peu de choses près, ce tableau pour décrire ce que c'est qu'une publicité. Donc c'est ça que va mettre en avant, avec en plus une publicité ciblée, etc. Enfin, il y a quand même des éléments différents. Ces plateformes des médias sociaux, pas tous, hein, pas WhatsApp, enfin moins, WhatsApp, il gagne son argent en vendant les données à Facebook. Voilà, il faut le savoir. Mais comme c'est la même société, et Facebook du coup permet d'encaisser, quoi, en vous proposant des publicités très ciblées. Donc parce qu'il faut bien de l'argent pour faire tourner WhatsApp, hein, c'est chez des programmeurs, des machins. Et donc les professionnels du marketing aujourd'hui disent que ce sont devenus des plateformes de publicitaires. Donc j'en pose un qui a fait une publicité en 2019, enfin plutôt une vidéo sur YouTube en 2019, Gabriel Dabiche-Webel, qui a fondé l'agence marketing 1 minute 30, assez pionnière parce qu'assez innovatrice, enfin quelqu'un un petit peu de reconnu. Donc on va voir sa vidéo. C'est ça. Ah ben ça, il a des...
Aujourd'hui, plus qu'hier, ces plateformes privilégient les contenus viraux. Alors, assumez-en les codes et foncez.
Yeah, let's go.
Pensez au contenu de stacking. Il provoque une réaction immédiate et une émotion forte chez l'internaute. Rire, peur, désir, toucher votre audience au tri. Pourquoi croyez-vous que le food porn connaît un tel succès? Le fromage qui dégouline, les steaks hachés qui s'empilent, l'appétit prend le dessus sur l'esthétisme. Les désirs, les instincts primaires sont immédiatement adressés. Autre stratégie sur laquelle vous devez miser, le storytelling. En racontant des histoires qui suivent la trame narrative universelle de l'épreuve qui risque de mettre au tapis, mais qui finalement est surmontée pour mener au succès, vous touchez encore une fois aux émotions. Et c'est un excellent moyen de créer des polémiques ou des débats. D'ailleurs, il ne faudra pas vous offusquer si jamais vos contenus entraînent quelques commentaires négatifs. C'est au contraire une très bonne chose, synonyme de vitalité. En jouant pas sur ses codes, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de payer, parce que finalement, c'est ce que veulent les plateformes. Elles vous proposent d'ailleurs de booster la viralité de vos contenus ou de mettre en place des campagnes pour convertir votre audience ou dégager un retour sur investissement. Et c'est ce que je vous recommande de faire. Dorénavant, il vous faut, il nous faut prendre les réseaux sociaux pour ce qu'ils sont, des plateformes publicitaires. Mais attention, soyez malins et...
Voilà donc pour le... Alors, attendez, je vais essayer de récupérer. Hop, voilà. Donc, c'est très clair. Alors, cette vidéo, il n'a pas fait du tout dans un esprit critique. Hein. C'est une vidéo qui s'adresse à des entreprises qui ont à vendre des produits et qui doivent investir de l'argent. Comment l'investir au mieux, etc. Donc, c'est sans arrière-pensée. Hein. C'est vraiment un conseil marketing qui est donné aux entreprises. Donc, voilà, il a l'avantage. Enfin, là encore, c'est comme Patrice Lelay. Il est honnête, quoi. Il dit vraiment, il appelle un chat, quoi. Dit vraiment ce que sont ces médias sociaux. Mais voilà, donc c'est pas... Vous voyez, ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est que c'est pas les gars qui sont critiques des réseaux sociaux qui disent ça. Il n'a aucun intérêt à critiquer les réseaux sociaux. Voilà, c'est juste expliquer comment ça fonctionne. Et vous voyez que ça a repris, hein, il a repris un certain nombre d'éléments qu'on avait mis dans la liste que nous avons décrite. Alors, des effets alarmants. Maintenant qu'on a vu cette marchandisation des médias sociaux, on peut s'attaquer aux effets. Et là, le premier dont vous avez parlé, c'est le phénomène d'addiction. Donc c'est difficile de poser le terme. Il y a ça crée oui, une addiction, c'est addictogène, ces médias sociaux. Donc on peut se poser la question. Donc le oui, alors. Comment expliquer cette addiction? Déjà, le monde qui se déploie sur les écrans est un monde qui est fabriqué, qui est artificiel, mais qui donne l'illusion du réel, puisqu'on parle avec des morceaux de réel. Ça reste, malgré tout, un monde virtuel. Et avant même de considérer le contenu de ce qui est présenté, on peut se poser la question des conséquences sur le fait que le tiers de notre temps d'éveil, comme on le disait tout à l'heure, du moins pour les plus jeunes, se passe sur un écran, devant un monde virtuel, plutôt que sur un paysage, un visage ou tout autre objet réel. Ça interroge sur la relation, le lien que l'on va pouvoir tisser avec le monde réel. D'ailleurs, il y a une différence, là je fais une petite digression, mais entre l'idole et l'icône, l'icône elle est là pour nous ramener au réel et nous préparer au réel. Elle réussit quand elle nous renvoie au réel enrichi, alors que l'idole elle nous maintient auprès d'elle, donc elle nous rend dépendants d'elle, de cette façon, elle nous maintient dans le virtuel. Dans l'idole. Alors j'aimerais, à propos de cette addiction, vous passer un petit passage d'un film qui s'appelle « Et si on levait les yeux ?», qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps. C'est un professeur d'école qui a voulu monter un projet avec sa classe de partir une semaine en classe verte sans écran. Et donc il a filmé, mais il ne pouvait pas comme ça d'un coup faire ça à cause du système d'addiction. Donc il les a préparés pendant un an et à la fin de l'année, ils sont partis. Pour que ce soit un projet qui soit aussi celui des élèves, qu'ils aient envie d'y aller, qu'ils aient envie de se donner ce défi et que ça les motive, pour ne pas les obliger à le faire. Donc c'est hyper intelligent, d'ailleurs le type est vraiment très très intelligent. Et donc on filme, on voit la façon dont il mène ses cours, etc. Que je vous recommande, ça ne dure qu'une heure, et c'est gratuit sur Internet. Il y a un site, YouTube. Et ça vaut le coup de le regarder d'ailleurs avec des enfants. Alors, encore une fois, vous pouvez peut-être penser ça, mais moi je suis un farouche défenseur de l'image. Je ne suis pas contre Internet, ni contre les médias sociaux. Je vous dirai à la fin ce que je critique chez eux, mais moi je suis favorable à ce qu'on... Je suis plutôt un homme de l'image, donc qu'on utilise l'image. Mais voilà, pas de n'importe quelle manière. Et donc, si on levait les yeux, voilà, moi c'est vraiment un film qui m'a marqué. Je vous passe un tout petit extrait qui est... Voilà, hop.
D'habitude, je punis de Switch, mais je laisse un petit peu regarder, et là, on a fait zéro écran. J'avais l'impression d'être avec un drogué, mais vraiment, hein, j'avais l'impression d'être un toxico, quoi. Il n'avait pas sa drogue, et du coup, ça a été un gros travail, mais c'était dur, hein. Mais vraiment, c'était hyper dur. J'étais épuisée, et c'est vrai que c'est dur, franchement, c'est. Cette histoire d'écran, elle nous met à cran. Introduit.
Donc c'est la situation de beaucoup de parents. Peut-être que vous, en tant que grands-parents, vous en avez moins. Mais moi, j'entends souvent des parents me dire qu'ils sont dépassés, quoi, et qu'ils ont l'impression de ne plus du tout être maîtres de la consommation d'écran de leurs enfants. Plus du tout. En fait, en tout cas, s'ils y arrivent, c'est avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Comment ?
Il y a des moyens de contrôler, on n'est pas obligé de donner un téléphone à 8 ans.
Alors c'est ça, bien sûr. C'est ça, effectivement. Mais alors on va en parler, je pense, dans le débat après. Hein. Donc ce cri de cette mère, qui est tiré du documentaire, illustre la difficulté que ressentent un certain nombre d'adolescents et d'adultes, parce que les adultes sont aussi concernés par cette addiction, à diminuer leur temps d'écran. Or ce n'est pas l'écran lui-même qui est addictogène, en tout cas moi c'est mon point de vue. C'est le type d'image qu'on y diffuse, qui peuvent être addictogènes. Donc il ne faut pas stigmatiser le temps d'écran ou l'écran. Moi, je trouve que c'est une erreur. C'est plutôt réfléchir à qu'est-ce qu'on diffuse sur cet écran. Et il y a certaines images qui ne sont pas du tout addictogènes, au contraire, qui peuvent nous faire grandir. Alors, le problème des images que vont diffuser les médias marchands, les médias sociaux et les algorithmes, c'est qu'elles vont avoir tendance à créer un monde virtuel qui est hyper stimulant. Comme on l'a vu, on a décrit ce type d'image, qui provoque artificiellement des émotions fortes, avec un travail de montage, de lumière, mais ce n'est pas des choses qui existent dans la réalité, hein, c'est complètement fabriqué. Et un plaisir intense de satisfaction, et donc une dépendance. Notamment, vous avez la satisfaction quand on fait un like. C'était une invention géniale, le like, pour Facebook. Parce que quand on like un de vos messages, automatiquement, vous avez une petite dose de reconnaissance, de satisfaction, etc. Et alors, il y a quelqu'un qui a analysé que vous cumulez deux types de satisfaction qui, normalement, naturellement, ne se retrouvent pas. Donc, la satisfaction du spectateur devant un film et la satisfaction de la star qu'on applaudit. Donc, vous êtes à la fois la star qu'on applaudit parce que c'est vous qu'on like, et en même temps, vous êtes devant votre écran et vous voyez, vous avez le spectacle de vous en train d'être liké. Donc, ça procure une espèce de... Ça décuple, en fait, l'effet de la satisfaction. Et donc c'est de la dynamite ce truc, c'est ultra puissant et ça se traduit chimiquement, hein. C'est-à-dire que ça produit en vous la dopamine, je sais pas quoi, les hormones qui fait que c'est véritablement une dépendance chimique. Il faut l'apprendre pour ce que c'est pas facile, et ça sera jamais facile pour quelqu'un qui est à 2h30 ou 4h d'arrêter d'un coup, enfin, vous lui faites une crise comme l'a décrit cette femme. Donc progressivement il y a un phénomène d'accoutumance qui se crée, et donc de dépendance. Et le risque aussi, c'est d'un désintérêt pour le monde réel, qui est moins stimulant. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, on était à la retraite conventuelle au Mont des Cas, et puis devant le monastère du Mont des Cas, il y a un magnifique paysage, et puis un matin, c'était vraiment très beau la lumière, il y avait, je sais pas, l'herbe était toute verte parce qu'il y avait un peu plu, elle était toute tendre, on est un peu à l'avance, nous, dans quand on n'est plus pas. Puis il y avait un rayon de lumière qui éclairait tout ça, etc. Puis il y avait un banc qui était juste face à ce paysage. Il y avait trois jeunes qui étaient là, les trois étaient sur leur téléphone. Et moi je passe, mais c'est ça, le monde réel, et même ça c'est moins stimulant que les super trucs, avec la musique, etc., qui nous en met plein les sens. C'est un vrai risque. Hein. Et puis, à terme, la personne se virtualise elle-même, on a parlé des avatars, mais c'est ça. Mais ça va même être, on va se surmaquiller. Alors j'avais une vidéo qu'on ne va pas présenter, mais où la personne, elle ressemble même plus à ce qu'elle est en réalité, tellement elle est trafiquée avec des filtres ou des choses comme ça. qu'on n'a plus d'enracinement sur le réel. C'est un autre monde, quoi. Et qui va stimuler les autres, de la même manière que les vidéos nous stimulent. Donc on rentre complètement dans le jeu et on devient soi-même un agent de stimulation qui va entretenir le système. Alors les courtes vidéos sur les réseaux sociaux jouent d'une certaine manière à cette virtualisation du monde, parce que au moment où je regarde cette recette ou cette manière de fabriquer moi-même mon sac avec en récupérant tel truc, tel machin, la façon dont on peut faire tel sport qui est super enrichissant pour les muscles, etc., la telle manière d'utiliser le service numérique, en fait ça remplit notre esprit d'un sentiment de plénitude, parce qu'on a l'impression, comme il y a quelque chose de réel dans l'image et qu'on le vit, on a l'impression d'avoir fait tout ça. Mais en réalité, non seulement le temps que je consacre à regarder ces vidéos qui sont hyper courtes, d'abord j'ai rien appris, parce que c'est pas passé par les mains, etc. C'est purement virtuel, et puis en plus, souvent je ne le fais pas, ça reste virtuel. Alors, quand je regarde comment je fabrique mon ketchup moi-même, en fait, ah ouais, c'est vrai, on peut fabriquer son ketchup moi-même. En fait, virtuellement, je me dis peut-être que je vais faire, en fait, je le fais jamais. Et pratiquement de tout ce que je regarde là, je ne vais jamais le faire. Donc je suis complètement dans le virtuel, et à la fin, on a l'impression de tout savoir, parce qu'on a vu une petite info qui durait 3 secondes sur un sujet, on a l'impression de savoir, et j'ai l'impression de savoir tout faire, d'avoir tout fait, de tout savoir et d'avoir tout fait, alors qu'en réalité c'est exactement l'inverse. J'ai rien fait, et je ne sais rien. Mais j'ai l'illusion de l'inverse, c'est un peu fou. Hein. Et ça me donne un sentiment de plénitude, un peu de toute puissance quand même, qui est aussi addictogène. Alors, voilà, virtualisation progressive du monde et de la personne, virtualisation des savoirs et compétences. Il y a Bernard Stiegler qui développe ça aussi. Donc, l'aliénation de la personne. Donc, un des éléments aussi qu'il faut prendre en compte dans les effets des médias sociaux, c'est la vampirisation de notre temps de vie. On l'a vu, un tiers du temps d'éveil pour les plus jeunes, pour regarder un contenu qui est principalement, quand même, il faut le dire, récréatif. Et même quand on, donc, avec peu d'intérêt, peu d'enrichissement personnel. Et puis, en plus, il a étudié le fait que quand on en reçoit quelque chose par l'écran, c'est beaucoup moins efficace, du moins pour les enfants, il faudrait faire le test pour les adultes, c'est beaucoup moins efficace que quand c'est une personne réelle. On apprend beaucoup moins, on a fait ça pour les tests de vocabulaire, mais c'est d'une proportion de 1 à 100. Hein. C'est-à-dire qu'il faut à peu près 100 heures pour une heure de présence réelle avec un enfant. Vous parlez à un enfant en réel, pour apprendre le vocabulaire qu'il va apprendre en lui parlant, il lui faudra 100 heures de vidéos pédagogiques. Donc c'est quasiment zéro la qualité des vidéos pédagogiques. Même fait pour ça. Hein. Donc on apprend beaucoup moins à travers un écran qu'avec une personne en réel. Et en plus, le contenu est quand même souvent inintéressant, quoi, très superficiel. Et même les messages qu'on s'écrit, c'est pour dire des choses qui sont quand même souvent, souvent pas forcément voilà, des découvertes littéraires écrit. Et donc, c'est du temps qu'on ne passe pas à y travailler, à étudier, à partager du temps avec d'autres, à se sociabiliser, à lire, à écrire, à faire des choses soi-même, à explorer ou à contempler la nature, donc à fabriquer. Donc déjà en soi, tout ce temps consacré à l'écran est déjà une forme de perte. Michel Desmurger, dans un livre là, que j'ai cité, La fabrique du crétin digital, que je vous recommande, on verra aussi à la fin, l'avantage de Michel Desmurger, c'est que c'est un scientifique. Donc lui, il s'est basé non pas sur les théories des psychologues, je ne sais pas quoi, ou de n'importe quel spécialiste autoproclamé, mais il s'est basé uniquement sur les statistiques, donc les études statistiques. Et il rapporte une quantité énorme d'études statistiques dans son bouquin. Et donc il a voulu tirer au clair cette question sur l'influence des écrans à partir de ces éléments-là, et pas d'autre chose. Et donc, il explique, chiffre à l'appui, comment l'hyperstimulation baisse la capacité de concentration et globalement des facultés intellectuelles des plus jeunes. Donc, il montre également que... Voilà. Il montre également que les programmes éducatifs, comme je l'ai dit, donnent un effet quasiment nul sur l'apprentissage de la parole et qu'elles ne peuvent pas remplacer une parole verbale. Voilà, ou la lecture d'un livre, parce que dans un livre il y a une richesse de vocabulaire infiniment plus grande que dans l'oral en fait. Et donc c'est essentiellement, enfin, l'enrichissement en termes de vocabulaire se fait essentiellement en lisant. Et donc globalement, cela entraîne une diminution du temps de parole et de lecture, et une baisse de la capacité d'expression verbale qui a pu être mesurée, tout ça statistiquement. Donc c'est très intéressant, vous pouvez lire. En plus, il écrit très bien, Michel Esmurger, c'est savoureux à lire, c'est drôle. Donc cela entraîne un cercle vicieux en plus, que vous pouvez voir là sur cet écran. L'augmentation de visionnage de vidéos récréatives entraîne une baisse du temps de parole, une baisse du temps de lecture, une baisse de la capacité de concentration. La baisse du temps de lecture et du temps de parole entraîne une baisse de la maîtrise du langage, et donc l'augmentation du visionnage de vidéos récréatives, puisque c'est celles qui sont à ma portée. Et la baisse de capacité de concentration entraîne aussi une augmentation de vidéos récréatives de plus en plus courtes. Donc ce cercle vicieux s'auto-entraîne. En plus, dernier élément, c'est que les vidéos sur les réseaux sociaux et dans les publicités, moi j'avais étudié ça pas mal dans les publicités, présentent un modèle de vie où le travail et l'effort n'existent pas tellement. Donc c'est toujours les loisirs, les animaux domestiques, on passe son temps à jouer avec ces animaux domestiques, ou sauvages d'ailleurs, à faire de la cuisine, à se maquiller, à faire du sport, on mange, tout est très, très superficiel en fait. Il n'y a pas vraiment cette notion d'effort, de travail, de pénibilité. On regarde des stars, on regarde un événement un peu surprenant, on s'intéresse à des stars, ouais. On fabrique des décorations, bref, on occupe le temps en fait. Un peu comme, voilà, on agite le gaucher devant un bébé. Donc le montage fait que tout ce qui pourrait paraître pénible est enlevé. Même la fabrication de quelque chose, ben, tout ce qui est un peu long, genre, hop, c'est coupé. Donc ça donne l'impression d'être très simple, facile. Donc déjà, la virtualisation du monde provoque une espèce de désengagement, mais en plus, le modèle de vie présenté dans les vidéos provoque ou encourage une sorte de perte de sens du travail et d'effort. Ce qu'on constate d'ailleurs un petit peu chez les nouvelles générations, les professeurs souvent rendent compte. Voilà, un modèle du moindre effort. Mais ça ne vient pas de rien. Ça ne tombe pas du ciel. Hein. C'est que ça a été, c'est une éducation qui a été faite comme ça. Ça ne peut pas être autrement. L'influence politique des médias sociaux, il y a aussi une influence politique, donc de deux manières. Donc comme je vous ai dit, c'est devenu quasiment des plateformes publicitaires, ce sont ceux qui ont les moyens d'agir qui peuvent promouvoir certains messages. Il suffit d'avoir les moyens de le faire. Alors, de plusieurs manières. Soit carrément je sponsorise un message, ou bien je paye des gens qui vont poster des messages, parce que j'ai beaucoup d'argent, donc je peux payer des gars qui font ça. Ou bien alors, carrément, je paye des programmateurs qui vont fabriquer des programmes, ça c'est possible aussi, qui vont faire des profils virtuels, qui vont aussi émettre des messages. Donc tout ça, ça existe, c'est possible. Mais il faut de l'argent. Donc c'est ceux qui ont de l'argent qui peuvent faire ça. Ceux qui n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas. Donc une petite association avec un petit budget, c'est possible. Voilà. Par contre, voilà, la Russie qui a beaucoup d'argent, visiblement, elle a fait son truc, d'autres grandes entreprises. Alors, on a, c'est ce que j'appelle, moi, une action directe et immédiate de puissance économique, entreprise, État, etc. Donc, on a un exemple très concret que je voudrais citer. C'est lors de. Alors, il y a des tonnes d'exemples, hein, mais j'en ai pris un que vous pourrez vérifier par vous-même, qui se trouve sur l'article Wikipédia de WhatsApp. C'est l'élection de Bolsonaro au. L'élection brésilienne de Bolsonaro au Brésil. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, donc dans l'article, vous avez ça, en octobre 2018, l'élection présidentielle est marquée par le recours à cette technique pour influencer le vote des électeurs en faveur du candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Le 18 octobre, des hommes d'affaires ont financé une campagne de diffusion massive de messages discréditant le Parti travailliste sur WhatsApp, afin de favoriser Bolsonaro avec le candidat. Alors maintenant, les sommes. Plusieurs contrats, chacun pouvant atteindre un montant de 12 millions de dollars, ont été passés auprès d'entreprises de ce genre. 12 millions de dollars, vous imaginez? On peut en payer des gars pour ça. Hein. Et donc, en plus, c'est très court. Donc, et plusieurs contrats. Et la somme d'argent que ça représente. Hein. En outre, ces campagnes ont servi à diffuser massivement de fausses informations, donc on y allait carrément, etc. Le recours à ces messages de masse sur WhatsApp a été analysé comme ayant joué un rôle important dans l'élection de Jair Bolsonaro. Bon, ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais vous voyez que la Russie s'en donne à cœur joie et on est obligé maintenant. Ça, il ne peut y avoir qu'un État qui lutte contre ça. Nous, on est incapables. Donc, ça peut être que des investissements massifs des États pour contrer ces méthodes. Mais justement, les médias sociaux prêtent le flanc à ce genre de pratiques, puisqu'ils sont sur un modèle marchand. La deuxième manière, c'est une influence beaucoup plus sourde, diffuse, profonde et invisible, et je dirais plus importante, beaucoup plus importante, parce que l'autre, elle est un peu grossière, quoi. Une fois qu'on l'a détectée, bon, voilà, on fait un procès, machin. L'autre manière, c'est beaucoup plus délicat. Donc, ça vient en fait du fonctionnement des algorithmes et de ceux du type d'image qu'ils vont mettre en avant. Ils vont mettre en avant des images, des contenus polémiques, scandaleux, des nouvelles dramatiques. Et c'est pas sans conséquence. Et il y a eu un édito dans l'hebdo de la Croix de Jean-Christophe Ploquin, qui est un ancien chef de rédaction, donc quelqu'un quand même qui voit loin, qui est très intelligent, et qui nous rend compte d'un travail qui a été fait par des politologues, Giuliano De Ampoli, qui ont décrit ce phénomène dans un livre qui s'appelle « Les ingénieurs du chaos ». Donc voici l'extrait. Donc l'efficacité de l'entreprise... Ah oui, c'est ça, j'ai oublié de dire que l'efficacité de cette action immédiate, elle est augmentée par le fait que, comme il y a une baisse des facultés intellectuelles, une baisse de concentration, il y a une baisse aussi de l'esprit critique. Donc on est moins capable de détecter un message mensonger. Donc ça augmente encore cet effet. Donc l'effet diffus et profond des algorithmes. Donc à partir, ça a été édité au moment de l'élection en Slovaquie d'une personne d'extrême droite, hein, enfin de populiste, d'un candidat populiste. C'était il n'y a pas longtemps, hein, c'était en 2023, voilà, en octobre, donc il y a moins d'un an. Donc les partis extrémistes profitent beaucoup plus que les acteurs politiques modérés de l'utilisation des plateformes numériques telles que Facebook ou YouTube. Donc il cite avant les ingénieurs du chaos. C'était une thèse en fait hein, qui a été traduite dans ce livre. Hein. Donc au départ, c'est un travail vraiment fouillé qui permet de. C'est pas juste une opinion comme ça. Ils y déclenchent des épidémies de rage et de ressentiment. En effet, les algorithmes sont conçus pour retenir le plus longtemps possible l'attention des usagers. C'est ce qu'on a dit, c'est leur programmation marchande. Pour ce faire, les émotions négatives, indignation, peur, perception d'un préjudice, victimisation, insulte, polémique, sont les plus efficaces. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas vu, c'est que les émotions négatives sont plus efficaces pour accrocher que les émotions positives. Le thème de l'immigration apparaît souvent comme le plus porteur. Mais toutes les colères sont bonnes à prendre, à découpler, etc. etc. Voilà comment... En mettant en avant toutes ces images capables de provoquer une émotion négative, eh bien, non seulement on va favoriser des images qui vont désigner des boucs émissaires ou des choses comme ça, mais en plus, une fois qu'on est accroché, on va être enfermé dans ce truc, avec l'effet bulle. Voilà, ça c'est un effet beaucoup plus diffus, beaucoup plus profond, qui est difficilement mesurable. Mais c'est une force d'influence. Voilà. Et la dernière influence que je voulais, c'est au point de vue spirituel. Nous sommes dans un monastère, donc c'est important aussi d'aborder ce phénomène. Donc ça, c'est quelque chose que moi, j'ai particulièrement étudié sur l'image publicitaire. Beaucoup de penseurs, hein, comme Baudrillard, si ça vous dit quelque chose, ou Roland Barthes, etc., puis plein d'autres, hein, ont comparé la société de consommation telle qu'elle se construisait idéologiquement à une nouvelle religion, un culte. Un culte du produit ou un culte de la marque. Moi, je dis une forme de nouvelle trinité avec le produit, la marque et la félicité qui irradie des deux. Voilà, la nouvelle trinité de notre société. Voilà, alors, un exemple hein, évident, Dior j'adore, ou j'adore Dior. Vous remplacez Dior par Dieu, et puis voilà, vous avez évidemment la récupération. Donc les médias sociaux et les images marchandes de toutes sortes apportent également leur contribution à cette joyeuse ferveur. Parce que c'est notre sujet, les médias sociaux. Tout d'abord, comme ils vampirisent le temps libre, eh ben on a moins de temps pour... et d'ailleurs, pas que le temps libre, d'ailleurs même le temps qui n'est pas libre, puisqu'on va largement sur nos médias sociaux, même quand on fait autre chose. Casque sur les oreilles, le divertissement permanent, la récréation permanente, eh bien c'est difficile d'avoir un questionnement existentiel ou spirituel. C'est devenu moins difficile, il faut être un peu confronté à soi-même, être un peu retiré quand même. Tous les grands, voilà, les grands spirituels ont toujours eu un temps de désert, à un moment ou à un autre. Hein. Ensuite, le monde virtuel crée, on a vu, une ambiance festive et ludique permanente. Ce qui fait qu'il n'y a pas de sujet grave, la question du mal, qui surgit quand on voit des drames qui touchent l'humanité. Ou alors, les drames, c'est balayé, quoi. C'est-à-dire que les drames, soit ils sont édulcorés, ou quoi, soit ils sont complètement éliminés. Ou alors, ils sont super accentués, mais ils durent peu de temps. Et puis, il y a un autre phénomène qui joue, c'est que tout est aplati. Un aplatissement d'image, c'est-à-dire que comme le jeune, il joue à son jeu vidéo où il détruit tout le monde, et puis que juste après, il voit l'image d'une guerre, et ben finalement, tout ça crée une espèce d'osmose dans sa tête, quoi. Tout ça est un peu mélangé. Et ça dévitalise, quelque part, la réalité. Il ne peut plus ressentir grand-chose, d'ailleurs, face à ça. Ça dévitalise la réalité de l'image qu'il peut voir. Et dernier élément, c'est que donc le film a l'aplatissement des images, on l'a vu, difficulté à éprouver de l'empathie. Et le dernier élément, c'est que les médias sociaux, dans la publicité, l'objet, c'est la marque et l'objet qu'on vend. Mais dans les médias sociaux, quel est l'objet de consommation ? L'élément qu'on consomme dans un média social, c'est l'image. Nous consommons de l'image. Et je dirais même plus loin, le média social lui-même, qui devient comme un substitut de Dieu. En tout cas, on peut l'analyser comme ça. Il nous accompagne chaque jour, chaque heure. Il médiatise nos relations humaines. Il fait mémoire des grands événements de notre vie. Avec l'intelligence artificielle, là, comme nous le vantait Zuckerberg, il va répondre à nos questions. Il va résoudre nos problèmes. Il va organiser notre vie, etc. Il donne l'impression de répondre à la quête de tout être humain, qui est sa quête, sa solitude, quoi, de combler la solitude de tout être humain. Un petit peu, en tout cas, symboliquement. Alors, un petit test pour prendre conscience de ce phénomène. Si je vous dis, aujourd'hui, demain, plus de réseaux sociaux, plus de médias sociaux pendant une semaine. Alors, vous n'êtes pas trop dépendant. Mais si on dit ça à des jeunes, par exemple, mais ils ne peuvent même pas imaginer ça, quoi. Alors, voilà, on pourrait dire enfin. Mais quand on réalise ça, ou si on fait l'expérience soi-même de le faire, on réalise à quel point, finalement, ça a une place dans nos vies, et une place qui est peut-être un peu excessive, sur laquelle on fonde notre vie. Parce que si on a du mal à enlever, c'est qu'on fonde un peu notre vie là-dessus. C'est que ça nous apporte un peu quelque chose comme du salut. Il y a quelque chose de ça. Alors, sans les considérations de travail ou autre, hein, mais dans un élément où, plutôt, les contenus récréatifs. C'est une chose dont on peut se passer. Donc, en gros, moi, je pense que des jeunes qui passent 2 heures sur les réseaux sociaux par jour, on ne peut pas les supprimer d'un jour au lendemain. C'est presque impossible. Hein. Alors, sauf en les préparant. Hein, mais... Alors, maintenant, quelques éléments quand même positifs. Hein. Donc, une sorte de médiation, substitut de Dieu. Tout ça, on a vu. Nous, portée de communication inédite. En même temps, il y a quelque chose de vraiment génial dans ces médias sociaux. Puisque, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 30 ans, il fallait des très gros moyens financiers pour diffuser, pour fabriquer un film, il fallait du matériel, des caméras, des techniciens compétents, etc. Et pour le diffuser, c'était pareil, il fallait des antennes d'émissions, etc. Il n'y avait vraiment que les États ou des très grosses puissances économiques qui pouvaient décider, créer une chaîne et décider de ce qui allait être fabriqué et diffusé. Les médias sociaux ont complètement démocratisé la fabrication d'une vidéo et la diffusion d'une vidéo. Et ça, c'est un outil démocratique merveilleux. Enfin, le potentiel, en tout cas. Donc, un merveilleux outil pour les démocraties. Il y a des gens qui n'étaient pas connus du tout et qui, en 10 ans, sont devenus connus pratiquement dans la France entière. Et qui au départ, n'étaient rien. Quoi. Ils ne sont pas partis par une institution qui les a poussés, etc. C'est juste le système des médias sociaux. Ils ont su rentrer dans... La question, quand même, derrière celle-là, pour nuancer cette euphorie, c'est que qui décide au final la vidéo qui sera diffusée massivement ? J'insiste sur massivement. Alors, oui, mais plus haut encore, encore plus profond, c'est l'algorithme. Donc en fait, ceux qui ont vraiment le pouvoir de décider ce qui va être diffusé massivement, c'est ceux qui ont le pouvoir de l'algorithme. C'est ceux qui programment l'algorithme. Ça donne l'impression, mais quand c'est vu 1000 fois, bon, c'est gentil, j'ai fait mon truc, mais ça n'a aucun impact sur la société. Par contre, ce qui va avoir un impact, c'est celle qui va être vue 1 million de fois. Oui, c'est celle-là. Et c'est vraiment l'algorithme qui va choisir celle qui sera comme ça, en fonction de la façon dont il aura été programmé. Donc, c'est vrai que c'est un merveilleux outil, mais quand même à nuancer. Qui a accès à la programmation de l'algorithme ? C'est la vraie question. Quoi qu'il en soit de cette possibilité, cette question, les médias sociaux ont certainement aidé à des mouvements de libération comme les printemps arabes. Voilà, par exemple, on avait, ils étaient reconnaissants, les Égyptiens, du rôle qu'avait joué Facebook dans. Voilà, je ne pense pas que c'est le média social qui a initié, mais il a largement aidé, en tout cas. Vraiment entretenu, il a sans doute permis un certain nombre de printemps, puis que ça se diffuse d'un pays à l'autre aussi rapidement, etc. etc. Voilà. Ou un autre exemple aussi, c'est la libération de la parole avec MeToo. Parole des femmes, les agressions sur les enfants, etc. Et d'ailleurs, là, par contre, c'est vraiment né des médias sociaux. Et le signe de ralliement, vous voyez qu'il y a un hashtag devant. Et ça, c'est vraiment, ça veut dire que c'est né des médias sociaux. vraiment un produit positif des médias sociaux, cette libération de la parole sur ces questions. Avec, bon, il y a peut-être toujours des excès, hein, mais globalement, quand même, c'est vraiment très, très positif. Donc, des phénomènes extra. Et aussi, il y a quelque chose de maintenant, on peut plus difficilement faire quelque chose impunément. Il y a toujours quelqu'un dans le coin qui peut filmer et puis diffuser ça en 5 minutes. Donc c'est plus difficile pour des tyrans, c'est jamais impossible, hein, on peut toujours cloisonner, filtrer, faire tout ce qu'on veut. Et puis la dictature peut être dans la tête aussi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même plus difficile de faire quelque chose impunément. On sait qu'on peut être très vite vu, filmé, et ça peut être diffusé. Donc il y a un côté, quand même ça, très positif aussi, exactement. Et puis, ben voilà, on peut aussi... Notre frère Paul Adrien, qui a investi les réseaux sociaux avec un très grand succès et qui touche un public incroyablement large. Alors vous voyez quand même ça, j'ai mis quelques vidéos là sur ce qu'il fait, qu'il doit malgré tout se plier au code des médias sociaux. Donc il doit faire des choses, des sujets plutôt polémiques, il doit faire un peu d'humour... Il y a une durée, donc il n'échappe pas quand même à certains codes, mais en même temps, lui rentre dedans et il fait ça. Bon, voilà, il diffuse des informations riches, enfin, quand même, il essaie de donner des choses. Puis, à mon avis, c'est pas un hasard s'il n'y a que YouTube où il perce vraiment, parce qu'il n'y a que YouTube qui permet quand même un certain contenu. Et les autres, comme c'est très court, bon, bref. Et alors, avec un résultat, mais hallucinant. Donc, je suis allé voir ce matin, donc ça, c'est le chiffre de ce matin. Il a 388 000 abonnés. C'est-à-dire que quand il poste une nouvelle vidéo, c'est automatiquement envoyé à ces 388 000 personnes. Et il a pratiquement 1000 vidéos en ligne qui sont des vidéos qui peuvent être consultées par n'importe qui. Et il y en a deux qui ont atteint le million de vues. Vous voyez que moi, j'ai travaillé à 7 ans pour Retraite dans la ville, que peut-être vous connaissez. Et Retraite dans la ville, ça touche grosso modo moitié moins de personnes pour un budget au moins 10 fois plus grand. Voire plus, peut-être 20. Et en fait, le truc, c'est que lui, il utilise le média social comme support, donc il n'a pas à faire une architecture, tout le système de diffusion, il utilise l'algorithme, il va diffuser ses vidéos maintenant. Donc, il n'a qu'à travailler à faire sa vidéo, c'est tout. Et après, il n'y a plus aucun frais. Et puis, la communication, ça se fait tout seul, comme c'est des abonnés, c'est YouTube qui envoie un message, c'est à travers des mots de recherche, etc. Donc, ça passe tout seul. Donc, c'est assez phénoménal comme système. C'est assez génial quand on y pense. Donc c'était un vrai phénomène de société maintenant, Paul Adrien. Avec deux vidéos d'un million, je pense qu'il y a le tiers des Français qui le connaissent, hein, facilement. En plus parmi les jeunes. Hein. Donc il a la capacité de toucher des plus jeunes. Il fait un vrai, il y a beaucoup de fruits de conversion, etc. Donc c'est quand même vraiment un phénomène. Hein. Retraite dans la ville, lui, par contre, il n'utilise pas les réseaux sociaux, justement peut-être pour ne pas dépendre de la forme, et pour être beaucoup plus libre sur la forme qu'ils veulent donner à leur vidéo, à leur contenu. Mais c'est un coût beaucoup plus important. Alors, on a parlé de services que ça pouvait rendre sur les familles, donc je vais passer tout ça, on connaît bien les cercles d'amis, les communautés, nous-mêmes on l'utilise dans notre communauté du 60. On passe à la question la plus importante peut-être, que faire ? Donc, que faire ? Donc sur cette question, il y a une actualité brûlante. C'est une étude qui a été commandée par Emmanuel Macron et son gouvernement en janvier à un groupe d'experts, une commission, pour évaluer l'impact des écrans sur les enfants. Et ils ont remis ce rapport, devinez quand ? Pas hier, mercredi. Le 1er mai. Donc ils ont rendu leur rapport le 1er mai. Donc on est vraiment... dans l'actualité la plus récente. Et voilà, donc on les voit là, c'était le 1er mai 2024, on voit cette commission. Donc c'est vraiment des gens top niveau, qui ont eu des super moyens, 3 mois, qui ont... On pourra dans le rapport à la fin, je suis allé voir, j'ai pu le télécharger hier soir, j'ai pu jeter un coup d'œil. À la fin, il y a toute la liste des gens qui ont été interviewés, c'est impressionnant. Puis déjà, eux-mêmes, c'est des pointures. Donc je pense qu'on peut difficilement faire un travail plus sérieux. Ils avaient des moyens, du temps. Ils étaient en groupe, donc ils pouvaient diffuser, échanger. Ils ont rencontré plein de gens. Je crois qu'on peut difficilement... Ils ont regardé plein de stats, etc. Ils doivent avoir lu tous les bouquins sur le sujet. Je pense que vraiment, on peut faire difficilement un travail plus sérieux. Et donc, après 3 mois, ils ont remis leur rapport. Hein, voilà, enfant écran, la recherche du temps perdu. Et je vous propose d'en lire quelques éléments du préambule, qui, à mon avis, est plutôt éloquent. Donc, je vais faire en sorte qu'on puisse voir un peu plus, mais sinon, n'hésitez pas à... On va faire activer le mode plein écran, voilà. Et puis on va agrandir. Est-ce que vous voyez mieux là ?
Oui.
C'est mieux là ? Alors on passe directement au troisième paragraphe du préambule. Donc, après 3 mois de travaux, la commission a acquis la conviction qu'elle devait assumer un discours de vérité pour décrire la réalité de l'hyperconnexion subie des enfants et des conséquences pour leur santé, leur développement à l'avenir, pour notre avenir aussi. Celui de notre société, celui de notre civilisation et peut-être même celui de notre humanité. Il faut voir les mots qu'ils utilisent. J'en ai même affaire de poule, comme je pense. La commission a été bousculée par les constats qu'elle a eu à faire sur les stratégies de captation de l'attention des enfants, où tous les biais cognitifs sont utilisés pour enfermer les enfants sur leurs écrans, les contrôler, les réengager, les monétiser. Elle a été alarmée par certaines représentations de la femme, par exemple le numérique hyperamplifie, et par ce qu'il peut imposer aux jeunes filles dans la vision d'elles-mêmes ou des comportements attendus d'elles. Préempter ce nouveau marché dans lequel nos enfants sont devenus la marchandise est le nouvel axe de développement de quelques sociétés du numérique. Nous voulons leur dire que nous les avons vus et que nous ne pouvons les laisser faire. Ce peuplement de l'espace numérique par les enfants, cette migration du réel vers le virtuel, se fait trop souvent de manière isolée, sans parents et sans aucune sécurité. Nous devons leur donner la main pour mieux les accompagner, pour mieux les protéger, pour leur donner leur place. Nous devons aussi, tout adulte que nous sommes, nous remettre à hauteur de ce temps de l'enfance. Nos enfants ne sont pas des petits adultes, ils ont besoin de jouer. Ils ont besoin que les adultes oublient leur portable pour leur donner du temps. Ils ont besoin de dialoguer avec les grands et de les retrouver disponibles à la maison, dans le parc, pendant leurs activités, dans les villes comme dans les campagnes. Face à la marchandisation de nos enfants, la commission propose de reprendre le contrôle des écrans pour remettre l'enfant au cœur de notre société et lui permettre de grandir et de se réaliser en toute liberté. Ce qui fait la richesse d'une nation, c'est sa jeunesse. Et la nôtre n'est pas à vendre. Alors, c'est une grande déclaration, effectivement. Donc, vous pouvez télécharger hein, ce rapport. Bon, il y a une synthèse, hein, je vous rassure. Voilà, on revient là-dessus. Alors, voilà, par exemple, je suis allé voir un encadré qui reprend quasiment, on ne va pas le lire, qui reprend quasiment les éléments que j'ai pu décrire à partir de Michel Desmurger. Mais en gros, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est l'attention, le temps de lecture, la perte des capacités intellectuelles, de concentration, de vocabulaire, etc. etc. Voilà, avec des calques sur les années. Voilà maintenant ce qu'il préconise concrètement. Donc attention. Donc vous pouvez le voir, concernant les médias sociaux, puisque c'est ça le sujet, pas accès aux seuls réseaux sociaux éthiques à compter de 15 ans. Oui, qu'on y est loin. Quand on voit qu'à 8 ans, ils sont déjà à 2h24 de réseaux sociaux, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont utilisé le terme éthique. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas dans des stratégies de captation d'attention. En gros, il n'y en a aucun aujourd'hui. Enfin, je ne vois pas quel média éthique il y a, hein. Les sociales éthiques. Ou peut-être WhatsApp, peut-être. À la limite, peut-être WhatsApp, ouais. Et puis, une organisation progressive des téléphones. Donc, le premier accès aux médias sociaux, c'est 13 ans... Non, sans accès, 15 ans. Donc, pour eux, l'âge d'accès aux réseaux sociaux, c'est 15 ans. Donc, ça, ce serait l'idéal. C'est ce que préconise la commission, en seconde. Donc, jusqu'à la seconde, pas de réseaux sociaux. Et un accès uniquement accompagné, enfin, vous pourrez aller voir un peu le détail, hein. C'est impressionnant. Alors, il y a eu des réactions immédiates, toujours, alors moi c'est un peu ma référence, La Croix, mais j'ai utilisé aussi un peu Le Monde, mais voilà, de Isabelle de Godemine, on avait tout à l'heure Ploquin, un autre grand nom de La Croix, aussi une femme assez éclairante, intelligente, qui a réagi. Et en gros, toutes les réactions, il n'y a pas qu'elle, il y en a d'autres, vous voyez que là, il y a un autre article à lire aussi, rapport sur les écrans des enfants, les préconisations sont-elles applicables. En gros, les critiques, elles sont toujours de 3 ordres. Donc c'est mesures qui briment la liberté des mineurs, voilà, leur interdire l'accès à Internet, alors que c'est un moyen d'accès à plein d'informations, etc. Est-ce que c'est vrai ? Il vaut mieux éduquer qu'interdire, et puis elles sont inapplicables. Personne ne saura appliquer ça. Et c'est vrai qu'on ne peut pas mettre un policier dans chaque maison pour vérifier l'utilisation pardon. On ne peut pas mettre un policier devant chaque maison pour vérifier l'utilisation que les enfants font d'Internet, etc. Alors, la plupart des autres auteurs proposent une discipline personnelle. Donc c'est Michel Desmurger qui propose ça, etc. Donc c'est de s'auto-discipliner, de se donner des règles. Alors on peut en donner, hein. Bon, c'est toujours... voilà, il y a une première étape, selon moi, hein, mais ça après on pourra partager, mais c'est de prendre conscience de sa dépendance. C'est toujours la première étape dans un chemin, c'est de prendre conscience qu'on est un peu dépendant. Et sans cette prise de conscience, on ne peut rien faire. Et prendre conscience, ça veut dire... alors, il y a une méthode simple, c'est de mesurer le temps qu'on y passe. Et il y a des applications sur les téléphones, en fait, autant sur iPhone que sur Android, assez simples, qui sont intégrées, il n'y a pas besoin de les installer, qui sont intégrées et qui permettent, vous voyez ici, bien-être numérique, ça c'est dans paramètres de Android, vous avez la même chose sur l'iPhone, et qui permet, par exemple, voilà, moi c'est la seule que j'utilise, donc WhatsApp, j'ai fait ça ce matin, et donc vous voyez, aujourd'hui j'ai fait une minute de WhatsApp. Mais c'est monté jeudi, alors que j'étais plutôt dans un temps où je devais écrire un bouquin, vous voyez, 30 minutes quand même, hein. Jeudi, je sais pas ce qui s'est passé jeudi, mais... Et donc, enfin, ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience déjà du temps qu'on a passé dessus. Vous voyez, ça c'est pas mal. Et vous pouvez faire ça avec tous vos médias sociaux. Donc, mesurez déjà, parce que sinon on ne le voit pas en fait. Donnez un chiffre. Ça c'est la première méthode. Ensuite, si besoin, c'est donner des règles en termes de temps passé et les programmer. Et vous voyez que sur ce même élément, on peut programmer. Donc là, je peux appuyer là-dessus et mettre, au bout de 30 minutes, il me bloquera mon accès à des réseaux sociaux. J'avais discuté avec une fille de 30 ans qui m'avait raconté son histoire, elle s'appelait Elsa. Elle me disait, elle marchait d'ailleurs sur un chemin de Stevenson. Donc j'avais fait une journée de marche avec elle, tout près du Puy-en-Velay. Et elle me racontait qu'elle s'était rendue compte qu'elle était dépendante, qu'elle passait beaucoup de temps, et que ça avait été un combat pour pouvoir diminuer ce temps-là. Et qu'elle avait dû nécessairement passer par des applications qui la limitaient. Mais ce qui était terrible, c'est qu'on pouvait ajouter du temps, des fois, enfin, c'était toujours tentant, enfin, c'était vraiment un combat, quoi. Il y avait vraiment une forme de dépendance. On se dit toujours, ah, mais allez, je vais jusqu'au bout de la vidéo, ah, et puis encore une, et puis... C'est fou, hein, mais c'est ça. C'est vraiment comme l'alcoolique. Et donc, elle y était parvenue. Mais elle a des valeurs, hein. C'est une chrétienne engagée, avec des fortes valeurs, donc c'est aussi ça qui l'a portée. Hein. Mais elle y était parvenue à arriver à un usage, correspondant à ce qu'elle souhaitait y consacrer, et pas plus. Voilà, se donner des périodes de pause numérique, ça c'est une autre technique que je donne, c'est-à-dire avoir des moments dans la vie où je coupe carrément la connexion avec... Internet, en parler, témoigner, la parole est de toujours, comme on fait là maintenant, cette conférence, pouvoir témoigner aussi, cette fille-là, qui a d'une difficulté à se séparer, de moments où on est passé plus de temps, ce qu'on voudrait, etc., etc. Et puis prier, parce que on aurait peut-être dû commencer par là, prier.
Et prier avec,
ouais. On peut prier avec aussi, ouais, tout à fait. Oui, on a vu avec Paul-Adrien. Alors, les retraites dans la vie n'utilisent pas les médias sociaux. C'est du temps d'écran, mais ce n'est pas des médias sociaux. On utilise soit une application, soit les mails. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est pourquoi on n'utilise pas les médias sociaux. Et c'est ce que je disais, je pense que ça impose une forme. Et on ne veut pas rentrer dans cette forme. Mais justement, retraites dans la vie n'utilisent pas. Je parlais des médias sociaux essentiellement. Donc, effectivement, on peut prier malgré tout avec les médias sociaux, mais c'est pareil, je crois, Paul-Adrien, c'est pas tellement un élément de prière, hein, Facebook, je sais pas quoi, c'est plus sur Discord, ou je sais pas, sur d'autres systèmes où il va créer des groupes de prière. Mais encore, ça marche plutôt moins bien en ce moment, Discord et tout ça. Donc, les médias sociaux, quand même, mais prier, moi, vous savez, je prie tous les jours pour la réforme du système médiatique, tous les jours. J'ai au moins une prière, une intention pour que le système médiatique soit réformé, ce dont je vous parlerai juste après. Je pense que ça, enfin nous on croit hein, que c'est un effort. Donc que si on sent qu'on a une addiction, on peut aussi prier pour qu'on utilise justement. Je pense que c'est essentiel ça. Ça ne se substitue pas à tout ce qu'on peut faire par ailleurs évidemment, hein. mais c'est un élément important. Et puis, alors moi je préconise, alors avant hein, je voudrais dire, je pense que ces méthodes-là ont quand même une limite, la discipline personnelle, ce que absolument pratiquement tout le monde propose, sauf un auteur que je vais citer tout à l'heure. Parce que souvent, les parents comme les enseignants ont l'impression de devoir lutter contre un truc, contre une force qui est vraiment énorme. Et on l'a vu avec la force d'attraction de l'image. Donc quand elle est utilisée d'une certaine manière, l'image, elle a une puissance de feu qui est difficile à combattre. Les parents, les professeurs ont l'impression de faire un bras de fer, mais permanent, ça les use, ça les fatigue, enfin, c'est un combat, quoi. Et puis, beaucoup de parents sont eux-mêmes dépendants. Donc aujourd'hui, on est dépendant à tous les étages, quoi. Donc c'est compliqué pour des parents dépendants, d'abord de s'occuper d'eux-mêmes, puis de leurs enfants. Enfin, finalement, ça a quand même ses limites. Et puis moi, qui vis dans un milieu populaire, je me rends compte qu'il faut aussi des ressources pour ça. Des ressources intellectuelles, des ressources machin. Bon. Moi, les familles où on va, c'est la télé à plasma qui fonctionne toute la journée. Quoi. Enfin, c'est impressionnant, c'est la connexion par les réseaux sociaux, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, on est tout le temps sur WhatsApp, on est... Donc, moi, je pense que la discipline personnelle ne suffit pas. On ne s'en sortira pas qu'en préconisant que cette solution. Alors, il y a la solution que propose l'État, enfin, que propose la Commission, c'est-à-dire des règlements, des lois hyper strictes. On a bien vu que c'était un petit peu limité. Moi, je pense qu'au fond, le problème, c'est qu'il faut aussi le type d'images qui sont diffusées principalement par ces médias. Et qu'il suffit de changer le type d'image pour que les choses changent naturellement et que ça ne devienne plus addictogène. On a bien vu que, donc ça à mon avis c'est résoudre le problème à sa racine, on a bien vu que les médias sociaux sont des entreprises à but lucratif qui cherchent à ce qu'on passe le plus de temps devant l'écran parce que c'est comme ça qu'elles se financent. Donc c'est normal, on ne peut pas leur en vouloir. Voilà, je sais pas, L'Oréal il veut vendre le plus de shampoing possible, ou de crème, je sais pas quoi. Bon bah c'est son boulot, c'est son business, très bien. On va pas lui en vouloir de ça, donc il va faire ce qu'il peut pour ça. Et ben, les médias sociaux, c'est pareil, comme elles vendent de l'image, ben, elles veulent en vendre le plus possible. Des images sponsorisées, tout ce qu'on veut. Et puis plus on passe de temps devant l'écran, plus on voit d'images sponsorisées, donc plus ils gagnent d'argent. En plus, ils ont de plus en plus de données. Puisqu'on passe plus de temps avec l'algorithme, il nous connaît mieux, on a plus de données à vendre. Bon. Eh bien, il suffirait d'imaginer que nos médias ne soient plus à but lucratif, mais financés autrement que par la publicité. Et du coup, ils pourraient mettre en avant un contenu de qualité. Et peu importe qu'il fasse 1 million de vues ou 10 000 vues, 10 000 vues c'est déjà pas mal. Si c'est un contenu vraiment de qualité, ben c'est bien que 10 000 personnes. Peu importe qu'on passe 2 heures ou 4 heures devant notre écran, si on n'y passe que 30 minutes, ben très bien. Même, ils devraient viser qu'on y passe le juste temps. S'ils voient qu'on y passe une heure, ils nous aident à décrocher en nous présentant des vidéos un peu plus exigeantes, pour nous aider un peu à décrocher. Ben, je sais pas, on peut imaginer programmer l'algorithme comme ça. On n'est pas condamné à avoir un algorithme qui veut toujours nous aguicher, nous capter. Donc, c'est une question de programmation, ça. C'est une question de volonté. Qu'est-ce qu'on veut? Quel type de personnes on veut? Et du coup, comment on va programmer l'algorithme? En fonction des personnes qu'on veut. Et nous, on peut décider qui on veut être. Peut-être qu'on n'est pas capable de résister à la tentation d'une image marchande, captatrice d'attention, mais on est capable de dire, je vais programmer le truc pour me présenter telle image parce que je veux être ça. Je veux être un type comme ça, donc je veux qu'on me propose ce type d'image pour devenir ce que je veux être. Ça, on est capable de le faire. Ça reste dans l'être humain. Et donc je pense que ça, c'est vraiment la solution fondamentale qui, je dirais même, vont inverser la tendance, parce que les médias, au lieu de nous décérébrer, nous abrutir, vont nous éduquer. Et vont fonctionner avec les parents et avec l'école. Si jamais on leur mettait des critères comme ça. Donc la puissance de l'image serait utilisée pour nous éduquer, nous élever, au lieu de nous enfoncer quelque part. Donc, ce que je préconise, moi, c'est de démarchandiser radicalement les médias. Je ne suis pas le seul à proposer ça. Donc, il y a une économiste qui s'appelle Julia Cagé, chercheuse, qui a pris conscience de la dégradation de la qualité de l'information, décennie après décennie, et qui, depuis 10 ans, réfléchit à un autre modèle économique pour les médias. Donc, elle a écrit 2 livres sur le sujet. Donc, « Sauver les médias » en 2015, « Capitalisme financier, participatif et démocratique », et puis un autre plus récemment, 2021. Je n'ai pas lu ces livres, j'ai pu parcourir l'un des deux rapidement, donc j'ai encore beaucoup de lacunes, il faut que je creuse encore le sujet. Mais globalement quand même, j'ai pu comprendre qu'elle propose un modèle proche de la forme coopérative, où il n'y a pas un actionnaire ne peut pas mettre la main sur un média, il peut avoir qu'un certain pourcentage, et puis à but non lucratif. Donc elle a bien conscience, du coup, elle a bien analysé le cœur du problème. Seulement moi, j'ajoute un élément à sa proposition, enfin je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas savoir, c'est qu'il faut les financer. On ne peut pas laisser que des actionnaires financer, sinon c'est la porte ouverte aussi à d'autres débordements. Donc je pense, moi, qu'il faut une taxe pour notre liberté, pour nous libérer de ce diktat de l'audimat. Une taxe, par exemple, sur le transit de données sur Internet. Voilà, 1 giga qui transite, ben, l'émetteur et le récepteur, ils payent un peu. Tout simple. Ça ferait une manne financière énorme. Et on redistribue avec une institution supranationale, il ne faut pas que ça dépende de l'État, avec des professionnels, des spécialistes, des gens tirés au sort, des gens élus, des gens nommés par des corps de métier, etc., des universitaires, des utilisateurs, etc., et qui décide, qui analyse, donc qui scrute. Hein. C'est déjà fait pour toutes les émissions qui passent, alors pas forcément tout, hein. À partir de, je sais pas, 10 000 vues, ben, on va scruter ce que fabrique je sais pas, un tel truc, et qui va pondérer, ben, voilà, qui va redistribuer cette manne financière en fonction de critères type pédagogie, culture, vérité des infos données, qualité de la réalisation, originalité, mais aussi pluralisme, pour qu'il y ait une diversité, etc. Tous des critères qu'on avait déjà établis quand on a vendu TF1, mais qu'on n'a jamais respectés. Donc on les a, les critères, quasiment. Voilà, c'est ça. Alors, plus ou moins, ouais, écarté, elle est un petit peu quand même soumise. Hein. Ça, je le développe dans le livre, mais ça a une influence sur les autres médias aussi. Donc, Arte n'est pas exempt totalement, mais c'est vrai qu'Arte, c'est une petite niche, hein, c'est 3% d'audience, 2-3% d'audience.
Mais le problème, c'est que les médias sont internationaux.
Oui, mais sur un pays, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Regarde, les États-Unis sont prêts à interdire TikTok, c'est possible. Hein. Voilà, si on décide qu'en France, il n'y a plus de médias à but lucratif, terminé, ben, Facebook, vous voulez continuer à diffuser, vous créez un média coopératif, associatif, voilà, en France. Vous financez au départ si vous voulez. Rien n'empêche d'autres types de financement, hein, type don, comme KTO. KTO, c'est un modèle associatif. Donc type don, type abonnement, très bien. Si les gens s'abonnent, bah, très bien, parfait, c'est un autre système. Mais pas la publicité, c'est tout. Et alors moi, je développe en plus quelque chose de l'ordre de l'image imposée, l'image suggérée. Mais ça serait trop loin de développer. Mais... en gros, voilà, moi, ce que je préconiserais, et c'est Bernard Stiegler qui développe l'idée que les médias sont un pharmacome. C'est un terme grec qui désigne un produit chimique qui peut, à certains dosages, nous tuer, ou à certains dosages, nous sauver, nous guérir. Je pense que les médias, c'est ça. C'est-à-dire une certaine manière de les utiliser nous détruisent, et une certaine manière de les utiliser, au contraire, vont nous faire grandir, nous évoluer. Moi, j'ai appris énormément de choses grâce à des films. C'est prodigieux, là, le pouvoir d'éclairage d'une image. Et d'ailleurs, j'en veux la preuve, je terminerai là-dessus, c'est que celui qui nous éclaire le plus, il est la véritable, authentique image du Père.